Agne nostro, dorime, dorime.
Watch me, pretty woman, walking down the street. Ah! Oh, capitaine, mon capitaine.
Auditeurs, auditrices de Radio G, bonsoir, je suis Ninon et après un dernier épisode un peu spécial où vous avez retrouvé Laure à la présentation, je reprends mon rôle d'animatrice pour vous proposer en ce mercredi une nouvelle émission de Clap & Chat. Et comme à chaque émission, je ne suis pas seule. Aujourd'hui, je suis entourée de mes complices Kevin et Edgar. Salut les garçons.
Salut Ninon, salut Edgar.
Salut Ninon, salut
Kevin. Et j'ai également aujourd'hui un public avec Léonore et Rémi.
Salut, salut.
Comment ça va?
Bah ça va bien.
Tout le monde va bien, parfait, super. Et ben écoutez, moi je suis très contente de vous retrouver. Et aujourd'hui, ça va être une émission pleine de fun, de rire, de déconnade,
ah ouais,
puisqu'on va parler de drames. Voilà, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On est sûr qu'on arrivera quand même à vous faire passer un bon moment. Nous allons commencer avec le drame Hamnet, puis on parlera du tant attendu Mage du Kremlin, qui revient sur l'arrivée de Poutine au pouvoir. Si vous avez vu ces films et que vous avez envie d'en discuter avec nous, n'hésitez pas à nous contacter sur notre compte Instagram, @clapandchat_radioG. On est toujours ravis d'échanger avec nous, ça nous fait énorme plaisir. Est-ce que tout le monde est prêt ?
Oui, c'est parti.
Let's go.
Alors, chers auditeurs, auditrices de Radio G, restez bien sur Radio G 101.5 FM parce que Clap & Chat, épisode 10, c'est parti. Moteur.
Action. Clap & Chat sur Radio G
101.5 FM.
Et nous allons commencer en entrant directement dans le drame pur et simple avec Hamnet, un film signé Chloé Zhao qui est sorti le 21 janvier dernier. On vous fait écouter la bande-annonce, histoire de se mettre un peu dans l'ambiance, et on se retrouve tout de suite après.
Raconte-moi une histoire.
Quelle histoire souhaiterais-tu ?
Quelque chose d'émouvant.
Est-ce vrai que tu sais tout d'une personne en la touchant ici ?
Pas tout.
Et lorsque tu m'as touché, qu'as-tu vu ?
J'ai vu un paysage.
Un paysage ?
Des espaces, des cavernes, des souterrains et des océans. Des contrées sauvages.
Seras-tu brave ?
Oui.
Seras-tu brave ?
Un gouffre sombre, noir, profond.
Bande-annonce de Hamnet actuellement au cinéma. Vous êtes toujours sur le 101.5 et c'est Clap & Chat que vous écoutez. Nous commençons tout juste à parler du film Hamnet, donc si vous nous rejoignez, ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien loupé. Et pour débuter justement cette petite entrée dans Hamnet, Kevin, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots pour nous le présenter, s'il te plaît ?
Absolument, et pour rester dans l'ambiance du film, je vais vous proposer un petit jeu.
Ah bah si... voilà, on avait dit du rire,
ah non,
du fun
du
et
fun,
tout.
Voilà, du fun tous les jours. Si je vous dis être ou ne pas être, telle est la question, vous me dites...
Molière.
Presque, ouais. Peut-être Edgar.
Non, là j'avoue que...
Est-ce que vous l'avez chez vous, tu vois, la question ?
En anglais peut-être ?
To be or not to be?
Ah oui, that effectivement, is the question. Là, ça y est.
Ok.
C'est Shakespeare.
C'est donc Shakespeare, effectivement. On connaît ses classiques hein, ici. Et donc, c'est exactement de ça dont on va parler avec, avec le film que Chloé Zhao réalise en 2025, Hamnet, tu l'as dit, Ninon, qui est donc en salle actuellement. Alors, c'est d'abord une adaptation d'un livre de Maggie O'Farrell qui est sorti en 2020, donc qui est assez récent. Et qui est en fait un livre et donc un film qui raconte le deuil vécu par Agnès et William Shakespeare suite au décès de leur fils Hamnet. Alors, petit disclaimer, ce n'est pas une biographie, hein, c'est quelque chose de complètement romancé, fictif. On est vraiment sur de la fiction, mais c'est un exercice que voulait faire Maggie O'Farrell et du coup qu'a repris Chloé Zhao, de raconter comment le deuil peut...
aurait pu être vécu.
Aurait pu être vécu et surtout qu'est-ce qui aurait pu amener à Hamlet dans Hamnet. La distinction est subtile à la radio. Au casting d'Hamnet, du coup, on retrouve Jesse Buckley, qu'on avait vu donc récemment dans Scandaleusement Vôtre, aux côtés d'Olivia Colman.
Que je vous conseille vivement, oui, qui est une comédie anglaise extrêmement piquante et politiquement incorrecte.
Ouais, c'est
donc,
ça.
Si vous avez l'occasion de le voir, allez-y.
Donc c'est sorti en 2023, donc je pense qu'elle doit être dispo sur les plateformes. Et puis elle sera prochainement aussi dans The Bride, qui sort là très bientôt. Donc Jesse Buckley et Paul Mescal en tête d'affiche. Alors, petit aparté pour les gens qui écoutent l'émission depuis un certain temps, pour vous donner un petit peu du contexte, Paul Mescal est à moi ce que Bastien Bouillon est à Nino.
Pardon, je m'y attendais pas, excusez-moi. C'est vrai, d'ailleurs, on embrasse bien Bastien Bouillon qui certainement un jour nous écoutera.
On l'espère. Et donc, Paul Mescal, qu'on a vu notamment, alors dans plein de choses, mais notamment, pour ne citer que ça, Sans jamais nous connaître en 2023, que moi, je recommande du coup très chaudement.
Que je vous recommande aussi très chaudement.
Voilà, j'ai pleuré à peu près pendant tout le film. Voilà, donc j'attendais vraiment beaucoup Hamnet parce que avec un casting de tête d'affiche qui était plutôt intéressant et j'ai été particulièrement convaincu par le film pour une raison très simple. Moi j'aime les films contemplatifs, des scènes lentes, longues, silencieuses, etc. Moi j'adore ça. Et là bon bah clairement dans Hamnet je suis servi. Hein. Il y a surtout le début du film, ça prend son temps. Il y a des scènes très lentes sur la nature, etc. Donc c'est vraiment chouette. J'ai vraiment eu l'impression de passer 2 heures à la fin des années 1580, donc au moment où l'intrigue se déroule.
Année qu'il a bien connue, donc il peut en parler.
Ah ben, moi, c'était toute mon enfance, attendez. je souligne d'ailleurs la qualité, pour m'en souvenir du coup, des décors et de l'ambiance générale que j'ai vraiment trouvé très bien retranscrit. C'était assez intéressant. Même si on est dans quelque chose peut-être de, on va dire, superficiel, romancé, voire idéalisé un petit peu de la période. Hein, on n'est pas non plus dans un drame de reconstitution historique pure. Il faut que ça serve quand même le propos.
La boue est belle.
La boue est belle.
Pour résumer ça.
Très beau second rôle pour la boue, c'est génial. Mais en fait, je pense que c'est surtout que ça fait partie pour moi de ce que voulait raconter un peu Chloé Zhao, puisque c'est aussi par le prisme du théâtre et donc de la mise en scène, Shakespeare oblige évidemment, que les émotions vont passer. C'est particulièrement le cas dans Hamnet ici. Alors, l'intro, pour mettre un petit peu d'eau dans mon vin quand même, est un petit peu longue malgré tout, même si j'aime bien généralement quand ça dure, la preuve mes chroniques. Et j'avais quand même rapidement envie d'en arriver au fait, mais c'était, je pense, un moyen de créer un moyen émotionnel vraiment très un lien émotionnel, ouais, vraiment très fort avec les personnages donc d'Agnès et William pour vivre en fait le deuil, puisque c'est de ça dont il s'agit, hein, je le rappelle. Et donc pour moi, Hamnet, c'est vraiment une réussite sur ce point. C'est que j'ai versé ma première larme sans rien spoiler. Non, plutôt vers la fin quand même. Mais j'ai versé ma première larme, de l'année au cinéma avec Paul Mescal et Jesse Buckley. Donc merci à eux et puis merci à Chloé Zhao.
Edgar, de ton côté, qu'est-ce que t'en as pensé?
Des larmes aussi, effectivement. Ouais. Alors je connaissais pas, bon, hormis la réplique To Be or Not To Be, parce que du coup je l'ai vu en VO.
Intéressant. Ouais, alors je pense qu'on l'a tous vu en VO. Et très sincèrement, on vous conseille de le voir en VO, puisque c'est dommage de voir un film sur Shakespeare en VF. Et pourtant, vous savez que je suis une fervente défenseuse de la VF. Mais celui-ci, on vous invite vraiment à voir en VO si vous pouvez, et si c'est OK pour vous d'y aller. Vraiment, ce serait dommage de passer à côté.
Très intéressant de le voir en VO, parce que le sous-titrage était fait avec une police qui était
oui
aussi dans,
exact.
Dans l'ambiance du film. Et j'ai trouvé
oui.
très, très malin d'aller jusque dans le détail du sous-titrage là. Avec une police, avec sérif et tout, des petites
tout
choses.
Tout à fait. Donc, c'est les détails qui font la qualité, je trouve.
Qui n'était pas blanche, en plus, de mémoire, s'il y avait une légère teinte sur la police. Et donc, ça ajoute un petit peu dans cette image d'idéalisation
c'est
et de romançage. De
mise en scène.
De mise en scène ouais. et tout. Donc,
donc
vraiment chouette.
Mais oui, c'est vrai, tu fais tout à fait, t'as tout à fait raison de le souligner, parce que c'était exactement ça.
Ça m'avait marqué, ouais.
Non, vraiment. Et puis, ce qui rajoute aussi beaucoup d'émotions, c'est la BO de Max Richter. Donc, c'est vrai que moi, les films, souvent, j'aime beaucoup les musiques ouais. et là plus particulièrement donc non vraiment plein d'émotions.
je partage un peu tout ça, j'avoue que j'ai aussi été très émue et je voudrais revenir sur un truc que t'as dit Kevin, que c'était extrêmement contemplatif et que toi t'adorais.
Ouais.
Moi je déteste les films extrêmement contemplatifs et j'ai adoré Hamnet. J'ai été prise du début à la fin ouais. et en fait il y a un truc effectivement de ces années mais qui est beaucoup lié à la réalisation et à la photographie. Mm-hmm. Et un truc très pictural presque, tableau, peint,
ouais,
etc. Et j'ai trouvé ça magnifique, j'ai trouvé ça hyper intelligent et extrêmement bien fait.
Ouais, parce que je pense qu'effectivement, c'était l'envie de montrer quelque chose de très figé dans le sens théâtral du terme.
Ouais,
en mode,
oui, je pense qu'il y a...
En mode,
vraiment...
c'est une représentation.
Oui, tout à fait.
Donc ouais, j'ai vraiment trouvé ça effectivement très intéressant dans la réalisation.
Je l'ai pris comme ça aussi, ouais. Et vraiment, moi, j'ai passé un super moment.
Ouais, un peu long au début oui. ou pas
d'accord,
Edgar
ouais.
il secoue la tête.
Non,
derrière,
je suis
oui,
d'accord.
Oui.
C'est vrai qu'au début, j'ai eu du mal à rentrer dedans, mais petit à petit, voilà, serait-ce que par rapport au thème, l'amour, la famille, puis bon, le deuil, c'est vrai que pour le coup, c'est des sujets où on rentre rapidement dans le film. Mais au départ, c'est vrai que c'est assez long, je trouve.
Parce ouais, qu'il y a l'installation de la situation ouais. et tout. Effectivement, le thème principal du film, c'est le deuil, mais ça n'arrive pas dans les premières minutes. Quoi.
Non, non. C'est clair.
Donc oui, il y a toute l'installation de la situation, mais ça rend aussi, comme on est dans la famille dès le début, ça rend encore plus fort les émotions qu'on ressent après. Donc c'est aussi logique.
Exactement.
Et je voulais souligner également, puisque Kevin nous parle de Paul Mescal, moi je voulais souligner justement sa partenaire Jessie Buckley, j'espère ouais. que je le prononce bien, qui pour moi, c'est elle, la star du film,
oui,
c'est clairement elle
clairement.
En fait. Elle est absolument incroyable.
Ouais, ouais.
Elle est folle. Et les enfants qui jouent, leurs
oui.
enfants, ils sont incroyables aussi. Enfin,
et
le petit...
Alors le petit qui... Alors ce qui est très drôle, c'est que le petit, donc, qui joue Hamnet, est le petit frère de celui qui interprète Hamlet
oui,
dans,
j'ai vu
la,
ça.
Dans la pièce...
Oui, oui. oui.
Plus tard.
Ah ouais, ok.
Donc, oui, j'ai vu ça.
Le casting est assez intéressant et les deux jouent vraiment vraiment très très bien, le petit garçon et du coup le plus grand garçon,
le plus grand, les deux frères en tout cas,
les deux frères, vraiment j'étais impressionné par leur prestation
ouais,
aussi.
Non, c'était
vraiment assez bouleversant,
c'était trop 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 bien, vraiment le casting est absolument fou. Le petit garçon, il s'appelait Jacoby Jupé. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce.
Oui,
j'espère.
Je pense, bah,
voilà.
Écoutez,
je pense que
si
j'aimerais bien le revoir.
Écoutent, ils peuvent nous demander.
Donc ouais, non, très bon, très très bon casting. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai noté aussi un peu ce manque de rythme, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Donc, si vous avez envie de voir Hamnet, c'est actuellement au cinéma. C'est un drame très poignant, mais vous allez voir, c'est plein de douceur aussi. Et pour revenir aux musiques, j'ai trouvé que c'était discret, mais que c'était beau, que c'était
ouais,
doux et que ça,
doux, ouais,
ça sublimait parfaitement
ouais,
bien le film. Ça prenait pas trop de place. J'ai adoré ça. Donc voilà.
Et ben, c'est parfait.
Et ben, vous avez compris. Hamnet, je pense qu'autour de la table, on a plutôt aimé, quoi.
En tout cas, ouais. Pour nous, c'est oui.
Vous voyez pas Edgar, mais il secoue la tête, la pièce.
Ça va.
C'est très radiophonique, ça, Edgar.
Non, non. Donc, si vous voulez vivre cette expérience émotionnelle qui est Hamnet, c'est toujours en salle. N'hésitez pas à aller voir. C'est un vrai petit bijou de mise en scène, de visuel, de casting, de tout, en fait. Et personnellement, ça m'a rappelé, à la fin, on voit le Shakespeare Globe, le théâtre de Shakespeare. Ça m'a rappelé mon petit voyage à Londres et j'avoue que j'ai plutôt
comment
kiffé.
Comment
je la
raconte? C'est fou.
C'était il y a plus de 10 ans. Waouh, j'étais jeune. Bon, sans transition, nous allons sortir du drama émotionnel pour parler d'un autre drama, mais cette fois-ci, d'un trailer dramatique tiré aussi d'un livre éponyme. Très attendu en ce début d'année 2026, je parle du film Le Mage du Kremlin. On vous laisse également écouter la bande-annonce et on se retrouve juste après.
Ce qui compte en Russie, c'est d'être proche du pouvoir.
Vadim Baranov était un metteur en scène visionnaire. On l'appelait le nouveau Rasputin.
Je veux être un acteur de mon temps, pas un simple observateur.
Il faut arrêter d'écrire des histoires et commencer à créer la réalité. Nous devons inventer quelque chose de nouveau. Russie a besoin d'un nouveau type d'homme politique.
Il est jeune, sportif. C'est un espion du KGB. Vladimir Poutine.
Ce qui m'intéresse, c'est le pouvoir. Je ne peux pas être soumis à qui que ce soit.
Notre objectif, c'est le chaos. Nous allons infiltrer l'esprit des gens. Construire le mythe selon lequel les Russes ont pris le contrôle du monde moderne. Nous en sommes les maîtres.
Tu mets ta magie noire au service du pouvoir ?
C'est un jeu. La politique est le seul jeu qui mérite d'être joué.
Comme c'est triste.
Les Américains me traitent comme si j'étais le président de la Finlande. Que veux-tu que je fasse ?
Ce sont des bêtes féroces. Ils viennent du néant.
Ils ont fait de moi le diable incarné.
Tu ne sauveras pas ton âme.
Nous devons inspirer la peur.
Et la violence.
Fais attention, tu risques de te brûler les ailes.
Personne n'est à l'abri en Russie.
Pas même vous, le mage du Kremlin. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de gagner le prix Nobel de la paix. Ce que je veux, c'est une guerre.
Voilà donc, c'était la bande-annonce du film Le Mage du Kremlin qui est actuellement toujours en salle. Et pour en parler plus profondément, Edgar, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu le film, s'il te plaît ?
Avec plaisir. Donc, sans faire de politique, Le Mage du Kremlin, un film de Olivia Zayas, adapté du roman du même nom de Giuliano da Ampoli. Donc, c'est pas un Italien, c'est un Franco-Suisse. C'est... Je me suis moi-même...
T'es toi-même franco-suisse ?
Exactement. Non. Mais en gros, voilà, donc c'est avant tout une histoire humaine, celle d'une rencontre entre deux hommes que tout oppose, mais qui vont se rendre indispensables l'un à l'autre. D'un côté, un homme de l'ombre, brillant, cultivé, qui comprend le pouvoir des mots et des images. Et de l'autre, un homme silencieux, encore difficile à cerner, en train de trouver sa place. Vous l'aurez deviné, on parle bien évidemment de Vladimir Poutine. Le film avance à travers leurs dialogues, leurs silences, leurs face-à-face et s'intéresse moins aux événements, à ce qui se joue intérieurement, l'ambition et la fascination. Paul Dano, qui joue du coup le mage du Kremlin, apporte une grande fragilité à son personnage, tandis que Jude Law impressionne par une présence froide et contenue, avec une mise en scène sobre et élégante. Azaya signe un film dense, intime, parfois exigeant, mais profondément captivant par son humanité et sa tension psychologique. Une petite anecdote croustillante, donc Jude Law, hein, qui joue Vladimir Poutine, a volontairement évité toute imitation appuyée, pas de maquillage lourd, pas de caricature. Azayas lui aurait même demandé de jouer l'énergie d'un homme, mais pas sa ressemblance. Donc quand on voit, vous verrez le film, hein, vous verrez qu'il lui ressemble, mais c'est pas non plus une caricature. Résultat, une interprétation tout en retenue, faite de silence et de regard, qui glace justement parce qu'elle est discrète. Un film dense, exigeant, mais profondément humain, qui capte l'attention sans jamais hausser le ton. Il y a un petit peu de violence, mais pas trop non plus.
Par rapport à ce qu'il y a en vrai, c'est sûr que c'est limité.
C'est nuancé, c'est exactement.
Kevin, qu'est-ce que tu en as pensé de ton côté ?
J'ai beaucoup aimé Le Mage du Kremlin aussi. Bon, c'est de notoriété publique que j'aime beaucoup les films en général. j'ai trouvé ça vraiment effectivement très intéressant. Alors, Paul Dano qui a été effectivement assez remarquable, même si sa manière de chuchoter ou de parler de manière très linéaire m'a un peu perturbé. Mais ça correspond bien au personnage, donc ça va.
Il y a ce côté très, très récit aussi, donc du coup oui. Ça marche bien.
Oui, la narration est très intéressante.
C'est ça, et puis c'est un livre à la base, et c'est un livre, du coup, pour le coup, on est vraiment sur un truc vrai, on est vraiment sur l'histoire de ce qui s'est passé. Donc là, on peut se permettre un peu de cette platitude, je ne sais pas si le mot est exact, mais en tout cas, ce côté très littéral.
C'est ça, mais très intéressant du coup, parce que la narration, effectivement, reprend ce schéma-là de je raconte un livre et je raconte un livre tellement que le film est chapitré lui aussi, donc du coup
exact, c'est vrai, je l'ai pas évoqué, mais on a ces chapitres avec
qui animations. C'est ça, c'est sur les différentes époques, on va dire, de la montée au pouvoir de Poutine, donc non, plutôt intéressant, vraiment de très belles prestas, et j'ai trouvé ça assez intéressant, surtout que le film est long.
Ouais. 2h25 de mémoire.
Ouais, il dure 2h25, donc il faut du temps. Mais le temps passe assez vite dans le film. Enfin, on s'ennuie pas, quoi.
Et là, VO ou VF ?
VO.
VF, pour ma part, et c'est peut-être pour ça, tu parles de Paul Dano avec son chuchotement. Dans la VF, on ne l'a pas. Mais par contre, j'ai trouvé qu'au niveau du doublage, ça m'a perturbé au début parce que... il est en anglais, en VO.
Oui, moi, ça m'a fait bizarre d'aller voir un film russe qui est de production française, mais qui est en anglais. Et je suis arrivée, j'ai fait « What ?»
Ouais, donc les passages en russe sont sous-titrés. Mais là, pour le coup, la VF, j'avais beaucoup de mal à... Enfin, je disais sur l'élève. Et pour le coup, c'est la première fois, en tout cas, que j'ai été assez perturbé. Parce que c'était pas tout à fait calqué sur la
synchronisation,
voilà,
tu veux dire.
Exactement. Mmh. Mais sinon, à part ça, non.
J'ai été le voir en VO aussi. Je me suis fait une série VO là, un truc que je fais jamais. mais du coup, c'est très intéressant ce que tu dis sur la VF, par contre, parce que je n'ai absolument aucune vision de la VF.
Ouais, j'ai même
à part la bande-annonce.
Je suis même pas sûr d'avoir vu la bande-annonce en VF.
Non, on l'a passé il y a 5 minutes, Kevin.
Pardon.
Il n'avait pas les images.
Non, mais oui, c'est très intéressant du coup que tu reviennes sur la VF. J'avais noté comme vous que le casting était vraiment fou. Moi, je suis très cliente de Paul Dano.
Yes.
Et là, je l'ai trouvé vraiment bon. Et j'ai aimé qu'on voit, parce qu'on parle beaucoup de l'ascension de Poutine et tout ça, mais en fait, on voit vraiment bien avant Poutine. Enfin, c'est pas Poutine le personnage principal du film.
Non, c'est clairement
Paul Dano, quoi. Donc, c'est hyper intéressant de voir ce qui se cache derrière Poutine et comment il est arrivé, alors qu'en vrai, il avait rien demandé à personne.
Ouais.
Donc, c'est très, très intéressant. Moi, j'ai adoré.
Je suis un peu entre deux eaux sur ça, parce que je trouve justement que ça décrédibilise un petit peu l'imaginaire de homme tout puissant qui sera arrivé là un peu comme ça. Et en même temps, ça le gentillise un petit peu. C'est presque, il est là...
J'aurais pas dit ça.
Il est là parce qu'on lui a demandé que voilà, mais c'est pas tellement de sa faute, quoi.
Moi, je trouve qu'effectivement, entre guillemets, il est là parce qu'on lui a demandé, mais il a vite quand même pris sa place et il a vite sorti du cadre qu'on lui a dit, viens, prends ce cadre-là. Il en est vite sorti. Hein.
Ouais, mais je trouve que les plus méchants, dans l'histoire, c'est pas le méchant.
C'est pas totalement faux. Mais après, comme c'est quelque chose qui s'est vraiment passé et que c'est un conseiller de Poutine, forcément, t'as une vision qui est pas tout à fait objective aussi. Il y a plein de choses qui sont squeezées dans le film.
C'est réalisé par un franco-suisse, donc on est normalement sur un projet de neutralité.
Donc voilà. Dernier mot sur le match du Kremlin.
Allez le voir.
Oui, aussi. De manière générale, le cinéma.
Allez le découvrir, franchement. Et puis, je pense que oui, Kremlin, tout de suite, on pense à Vladimir Poutine, mais comme vous l'avez dit, il y a tout ce qu'il y a autour de lui et de l'histoire
et
de la première SS.
Et justement, oui, de la vie des Russes et de comment les Russes ont vécu ces années, des années 90 à un peu plus tard, justement.
Et pour le coup, moi, j'avais aucune connaissance de ça, vraiment. Étant née dans les années 90, je ne savais pas ce qui se passait dans les années 90 en Russie. Et j'ai appris des choses, vraiment, en fait. Je ne savais pas tout ce qui se passait. Je ne savais pas l'ouverture qu'il y avait en 90. Mm-hmm. Et j'étais hyper étonnée.
Je suis de l'URSS. L'occasion de mélanger l'Occident et la Russie.
Mais je ne pensais pas que les Russes l'avaient accueilli comme ça, en fait. Et du coup, j'étais hyper positivement surprise pour ce début de film.
On a un petit parallèle avec l'Ukraine aussi et c'est vrai que pour le coup...
C'est très...
Donc non, moi j'ai appris plein de choses, j'ai aimé. Et si, il y a un truc qu'on n'a pas dit et on finira là-dessus. L'image en fait, là, j'ai beaucoup aimé la réalisation, j'ai beaucoup aimé les plans sur les face-à-face des acteurs quand il y a des discussions ou les plans narratifs justement où ils parlent dans la neige et tout. Enfin, vraiment un truc très très contemplatif comparé au truc très dynamique. J'adorais la réalisation.
Et d'ailleurs, de vraies fausses images d'archives. On a l'impression
qu'on a plein
d'images d'archives. Et on retrouve Jude Law, du coup, dans les images.
Ouais, ça, c'était très, très bien fait. C'était très intelligent, j'ai trouvé.
Et ça montre les époques, puisqu'on a parfois un grain à l'image. Et sur l'époque actuelle, enfin, dans le film, vous verrez, on a quelque chose de très fluide sur l'époque contemporaine.
Et c'est très intelligent.
Au niveau des noms, alors je ne sais pas si c'est comme ça véritablement en Russie ou au pouvoir, mais en tout cas, à chaque fois qu'ils s'adressent à une personne, ils vont dire son nom complet. Je ne sais pas si ça ne vous a pas marqué, ça.
Oui.
Ah non ?
À chaque fois qu'ils vont pour s'adresser à quelqu'un, ils vont dire Vladimir, et hop.
Ils vont dire nom, deuxième nom.
Oui.
Ils vont dire prénom, deuxième prénom. Et pas forcément le nom de famille, justement.
Mais à chaque fois, on a...
Ouais, c'est Vladimir Vladimirovitch.
Oui, et c'est vrai que ça m'avait marqué, ça m'a interloqué, ça m'avait pas marqué, mais sur le coup, ça m'avait interloqué. Et là, que tu le redis, ça m'en fait moins en souvenir. Mais et du coup, vous pensez que c'est quoi ? C'est traditionnel ?
Je sais pas.
Ben, je pense que c'est comme ça, mais du coup, ça, c'est pas que ça porte à confusion dans les personnages, mais il y a beaucoup de personnages.
Oui, oui, et puis le personnage principal, il a un nom qui ressemble à Vladimir en plus.
Donc oui, exact.
Voilà. Dans notre public, on a Rémi qui secoue la tête, donc oui, a priori, ce serait culturel. Si tu veux nous expliquer, vas-y Rémi.
C'est culturel. Il n'y a que nous, dans l'Occident, qui les appelons par Vladimir, pardon, je vais y arriver. Vladimir, je ne sais plus quoi son deuxième prénom, Poutine. Quand notre ami, le président de la République, s'adresse
c'est
à lui...
C'est pas mon pote.
Oui, moi non plus. Mais, moi non plus, mais il ne l'appelle pas Poutine, il l'appelle Vladimir, machin, je ne sais plus quoi.
D'accord. Il donne tous ses noms aussi ?
Oui, lui aussi. Okay. En fait, c'est chaque... c'est dans leur culture, ils s'adressent comme ça auprès de Poutine, en fait. C'est, okay. C'est culturel.
Et du coup, Poutine s'adresse d'accord. comme ça aussi à Macron ?
Il s'appelle par leur prénom, les deux. Hein, donc,
C'est son poteau. Ouais. Macron, il n'est pas poteau avec moi, mais il est poteau avec Vladimir.
Ils s'appellent tous, en fait, dans tous les Occidents comme ça, ils s'appellent tous par leur prénom.
Okay.
Ils disent mon ami Poutine, alors qu'en vrai, c'est pas du tout ami, les deux, mais
ouais,
tu vois.
Ouais, c'est des ronds de jambes.
C'est diplomate,
ouais,
en fait. C'est, et en Ukraine, c'est comme ça. Pareil, ils s'appellent tous leur nom. Okay. Et quand vous disiez tout à l'heure, je vous écoutais, vous disiez qu'il était venu par-ci, comme s'il était, il n'était pas au courant qu'il venait président. Et ben en fait, ça s'est vraiment passé comme ça.
Ouais,
il n'était
ouais,
pas prévu que Vladimir
ils ont été le chercher,
Poutine
ils ont
été il le chercher. Ouais. Au début, il était sympa. Et à la fin, il vient ce qu'il est en enfoiré comme
ouais,
ça.
Ouais, c'est ça. Quand on dit qu'il sort du cadre qu'on lui a donné,
c'est vraiment
c'est
du cadre.
Ça.
Ça a l'air d'être un super, super film. On en parlait en off. J'avais pas été le voir, donc je vous ai demandé votre avis. Franchement, vous m'avez donné vraiment envie d'aller le voir.
Eh ben, c'est exactement ouais. pour ça qu'on est là.
Réussie.
C'est trop bien. Mais oui, moi, ça me va. Donc, le match du Kremlin, c'est actuellement toujours en salle. C'est un long film, mais vous allez voir, c'est bien plus intéressant que ça ne laisse croire. Pardon. 2h25, plongé au cœur du Kremlin, mais plutôt dans les coulisses. Donc, c'est très intéressant. Si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à nous faire vos retours. Eh bien, écoutez, ça va être maintenant l'heure de se quitter. J'attends des réactions de tristesse de votre part. Merci.
Je suis ébobie par le choc.
Bon, juste avant, j'aimerais dire deux mots sur le festival Premier Plan. On en avait parlé avant d'y aller, avant qu'il y arrive. C'était il y a quelques semaines et Radio G était en collaboration avec Radio Campus pour couvrir l'événement lors de deux lundis exceptionnels où on a fait des émissions communes. Donc déjà, merci à l'équipe de Radio Campus de nous avoir accueillis. À titre très personnel, j'ai pu assister à la soirée d'ouverture du festival avec Jules de Radio Campus et on vous a fait un petit reportage sur cette entrée, sur cette inauguration de festival où il y avait notamment Fabrice Lucchini. Le reportage est toujours dispo, vous pouvez le retrouver sur le site radio-g.fr sur l'émission Topette. Ne vous inquiétez pas, on vous remettra tout ça en description sur le site de Radio G. Un petit retour sur nos films avant de se quitter. On fait un dernier récap. Les films Hamnet et Le Match du Kremlin sont toujours actuellement en salle. On vous les conseille vivement. N'hésitez pas à y aller. Il y en a pour tous les goûts. Vraiment, c'est deux propositions très différentes. Donc, vous allez forcément trouver votre bonheur. Merci Kevin, merci Edgar d'avoir été avec moi aujourd'hui, de partager tous ces avis.
Merci à toi.
Merci à notre public exceptionnel du jour d'avoir
Bravo.
Été là aussi.
Merci à toi. C'était gros. Un grand plaisir. Et j'ai un cadeau. Pour toi, wow. Tu sais très bien...
Ah oui, c'est vrai, on en avait parlé.
On en a parlé, on t'offre une affiche du festival Le Premier Plan, mais je crois qu'aussi, on fait un cadeau de la part du Premier Plan et Radio
oui.
G. On offre une affiche de cinéma de Premier Plan en format très très grand, il faut avoir un grand mur.
L'affiche officielle de Premier Plan, wow. Vraiment en format géant,
incroyable.
En format affiche de cinéma.
Donc on vous l'offre, ce sera sur les pages...
Ce sera gagné sur notre page Instagram, exactement.
Donc on sait que tu as été très heureuse de couvrir cet événement.
Bah oui.
Et au nom de Radio G, je te remercie d'avoir couvert cet bel événement.
Merci à vous de m'avoir permis de faire ça. C'est la première fois que je faisais Premier Plan, donc je suis ravie. Merci beaucoup. Tant mercredi prochain, vous retrouvez Pop Flash à 19h. Nous, ce sera dans deux semaines et le rendez-vous, c'est le mercredi 18 février. On vous l'annonce déjà, je vous spoil un tout petit peu. On va parler de Couture qui était en avant-première d'ailleurs à Premier Plan. D'ici là, si on vous manque trop, vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site Radio-G, rubrique Clap and Chat. Tout de suite, on vous laisse avec un petit peu de musique avant d'accueillir Rudy's Back. On se donne rendez-vous, comme je l'ai dit, le 18 février à 19h, toujours sur Radio G, 101.5 FM. Et en attendant, laissez-vous embarquer par de belles histoires et vivez l'émotion sur grand écran.